Henri Barbus, l'honnête homme. Mon dîner terminé, je me balançais indécis sur le seuil du petit restaurant de la rue Bonaparte. Tournerais-je à droite ou à gauche? Vers le boulevard Saint-Germain ou vers les quais pour faire ma promenade d'avant-coucher? Depuis que j'avais pris ma retraite de l'administration, j'étais souvent en proie à de longues hésitations de ce genre. Enfin, je m'engageais résolument du côté des quais. Une haute et mince glace de devanture me montra mon image, ma figure grisonnante d'artiste, car bien que je n'ai jamais rien fait, j'ai toujours eu, je le sais bien, moi, beaucoup d'imagination, de sensibilité, de goût. Quoi qu'il en soit, je longeais les quais. Ce soir de juillet était encore tout mélangé de jours. Presque pas de passants, mais beaucoup de petites clartés piquées dans le brumeux décor terrestre. Tout en haut, le ciel était peint de larges touches bleuâtres. Plus bas, il était tendu d'un satin pommelé de rose. Et sur l'horizon, entre les découpures nettes et noires des toits lointains et des feuilles proches, il semblait former de lumineux rangs de perles serrés les uns contre les autres. Le silence gris du quai Bourbon me rappela un coin d'Orléans et cela m'attendrit. Personne, si, un monsieur, dont la canne tapait par terre, s'avançait dans ma direction. Soudain, derrière moi, une clameur déchira l'air. Je me retournais, c'était un camelot. Un paquet de journaux sous le bras gauche, agitant une feuille de la main droite, il fondit sur moi au galop en vociférant un nom de journal et en ajoutant « Voyez, le plus grand crime du siècle, l'homme coupé en morceaux par des enfants !» Il était vêtu d'une blouse blanche chaussée d'espadrilles. Il bondissait en boitant, en tirant une de ses jambes comme une longue loque. Il se planta devant moi, il me rugit à nouveau le titre du sensationnel fait divers. Il avait une face blême, enfarinée, les yeux troubles, la bouche tirée par un rictus un peu baveux. Il haletait et me regardait d'un air interrogateur et féroce. Je fis non de la tête, il n'insista pas et repartit en soufflant. Ceci s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ainsi qu'on s'exprime dans les romans que j'ai lus et dans ceux que j'écrirai peut-être un jour, moi. L'unique passant était arrivé à notre hauteur. C'est un grand et gros monsieur, bien sanglé, au pas puissant, coiffé d'un chapeau de forme à très large bord. Le camelot se roua sur lui et lui hurla les mêmes choses qu'à moi. Le monsieur acheta la feuille, se fouilla pour trouver un sou, cependant que le camelot attendait, la main tendue, en sautillant devant le client et sans cesser d'émettre des clameurs éraillées. « Voyez, horrible détail !» Mais tout à coup, la scène que je suivais instinctivement du coin de l'œil changea. Le monsieur, tout en se fouillant, parcourait rapidement le journal. Il grogna, poussa un terrible éclat de rire, et abattant sa main sur la maigre épaule du vendeur, qui plia enfin muet, le client s'écria « Nous y prend l'ami à annoncer de fausses nouvelles. Allons au poste !» Le gars petit gémit et se débattit, mais il n'était pas de force et, boitillant, fut entraîné sur le pavé désert du quai. Or, par une étrange coïncidence, un autre promeneur surgissait dans le crépuscule. Et ce promeneur brillait vaguement, et c'était un sergent de ville. Le monsieur lui présenta le vendeur de journaux, qu'il faisait avancer à côté de lui comme un paquet léger, mais encombrant. « Cet individu annonce des nouvelles fausses et alarmantes pour vendre ses journaux. »« C'est pas vrai, glapit le camelot, je le jure !» « Au poste !» conclut l'agent. « Mais c'est pas vrai !» pleurnicha d'un accent éperdu, l'homme qui avait l'épaule tordue sous l'étreinte de l'irascible acheteur. Celui-ci le secoua. Pas vraiment dit, au fait. Monsieur était là, monsieur a entendu. Il me désignait de la canne. Tous les trois me regardèrent. Le client avec une expression de triomphe brutal et haineux. Le crieur avec l'expression d'un noyé qui fait une suprême grimace d'adieu à la vie. L'agent d'un air inexpressif. Alors moi, je proférais avec le calme d'un personnage de tragédie. Je n'ai rien entendu. Le gros homme bondit. Rien entendu, mais les enfants coupés en morceaux. Rien entendu, c'est dit que vous êtes sourd. Devant sa fureur, je répétais plus haut. Non, je n'ai rien entendu. Allons, intervint l'agent. Lâchez ce bonhomme-là, vous ne m'embêtez plus avec vos histoires, hein. Mêlez-vous de vos affaires. Le monsieur sacra, enfonça son chapeau sur sa tête, fit demi-tour et s'en fut. L'agent, d'un pas digne, quitta de même les lieux. Oh, je n'oublierai jamais le regard de ce pauvre singe reconnaissant qui plissa la face glabre et blafarde du camelot. « Vous êtes un honnête homme, mon gargouilla-t-il, la voix étranglée par les larmes. »« Mais vous aussi, mon brave, m'écriai-je, non sans émotion, touché par ma bonne et belle action. » Quelques jours après cet événement, j'allais dîner chez Saladin, dont les fils poussent à vue d'œil. Il y avait là Pripigueux, Panonceau, Tueur et d'autres vieux amis. Je rentrais tard et, riche d'un bon dîner, j'enfilais l'avenue de Ségur. Chaque bec de gaz faisait miroiter mes souliers vernis. Je rêvais, car ma tête travaille toujours, lorsque je me heurtais rudement à quelqu'un qui était sorti de terre devant moi. Je poussais une interjection sourde. Mais aussitôt, je me sentis empoigné par derrière, étranglé, paralysé, précipité sur le sol. « Portons-le près du réverbère, qu'on s'y coupe le sifflet aux lumières !» dit une voix faubourienne. On me traîna dans un rayonnement tremblant, et j'entrevis quatre ou cinq têtes de bêtes féroces penchées sur moi. Mais tout à coup, une exclamation rauque. « Je veux pas qu'on y touche, il a menti à un flic pour me sauver. Il a fait ça, celui qui le guérira aura affaire à moi. » « C'est bon !» dirent des voix. On me laissa tomber et les formes s'esquivèrent de côté et d'autre, entraînant la savate. Péniblement, je m'assis sur le bord du trottoir et j'aperçus, dressée devant moi, une silhouette dansante à la face enfarinée, au bon regard larmoyant. « C'est un malentendu, mon prince, » murmura ce garçon. « Oui, vous avez été un honnête homme le jour que vous avez menti aux flics, et j'ai voulu vous montrer que moi aussi je suis un honnête homme. »